Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Sous le sabot ». Pour cela, nous recevons Frédéric Banzé à l'origine de ce livre. Alors, Madame Banzé, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, présentez-vous, parlez-nous un petit peu de votre parcours.
Eh bien, écoutez, j'étais professeure de lettres, ça compte beaucoup. J'ai toujours été intéressée par la littérature. J'ai même eu une petite maison d'édition quand j'avais 25 ans. Et puis donc, j'ai écrit moi-même déjà des livres, voilà, qui sont plutôt pour la jeunesse et qui se passent dans l'Antiquité, donc aucun rapport avec le livre d'aujourd'hui. J'ai été aussi psychologue pendant longtemps. Je suis passionnée d'histoire, et d'archéologie, voilà.
Et quelle est votre formation de base ?
Ma formation, c'est plutôt lettres, voilà, lettres et psycho.
Et qu'est-ce qui vous a poussé vers cette formation dans un premier temps ?
À la passion de la littérature au départ, et puis après l'intérêt pour la psychanalyse d'une manière générale, et donc le désir de comprendre un petit peu les êtres humains, on va dire, et puis mes élèves aussi, parce que c'était très important de pouvoir être psychologue et d'être en même temps avoir des classes à mieux comprendre les enfants, quoi. Ça, c'était très important pour moi.
Et comment vous vous êtes mise à l'écriture ?
Alors, j'ai commencé par la poésie, et puis après, il se trouve que j'habite Aix-en-Provence, et à Aix-en-Provence, j'étais dans un collège sous lequel il y avait une mosaïque romaine. Et sur les Romains, j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup de travail, et je me suis dit que, arrivant dans le Midi, qui est vraiment tourné vers la Méditerranée, il était peut-être temps de parler des Gaulois, et donc des Celto-Ligures et des Gaulois. Et donc, j'ai su que la ville d'Aix-en-Provence avait été fondée en -122 avant Jésus-Christ, et donc, par un général qui s'appelle ici Sextus, qui est très célèbre, il y a une allée Sextus, des cours Sextus, enfin tout est Sextus ici. Et donc ce héros, ben, je lui ai inventé une petite fille de 11 ans qui m'a permis d'écrire pour la littérature jeunesse des livres historiques. Voilà, je lui ai inventé une petite fille à ce général romain.
Et concrètement, d'où l'idée de cette histoire vous est venue, d'où l'inspiration de celle-ci?
Eh bien, en fait, c'est parce que ici, nous sommes vraiment tournés vers le monde romain et que j'ai voulu décrire, enfin, ce qui m'intéressait, c'était de dresser une sorte d'état de la Gaule au moment de l'invasion, la première invasion romaine. Aix-en-Provence, c'est la première ville romaine en Gaule. Et donc, après, l'Empire romain va s'étendre, évidemment, mais c'est pas encore l'Empire. Mais dans quel état il trouve la Gaule et comment vivent les Gaulois? Et en fait, la petite fille va tout simplement découvrir une civilisation tout entière, alors que son père lui avait dit que c'était des barbares.
Et pourquoi avoir fait plusieurs tomes pour cette histoire?
Parce qu'elle fait un très grand périple dans le Midi, sur des sites archéologiques un peu partout. Après, elle monte jusqu'à Genève. Et dans le tome 4, qui n'est pas encore paru, elle va en Alsace, dans le Luxembourg. Et puis, elle descend par Bibrac et la Narbonnaise. Donc, elle fait un énorme périple, si vous voulez, qui permet de décrire la Gaule entre -123 et -118.
Je suppose que des recherches ont été faites.
Oh oui, au moins 10 ans de travail. Oui, oui, bien sûr. Puis je connais tous les archéologues du coin, enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, pour venir directement au livre, ben en fait, c'est quasiment un travail d'archéologie que j'ai fait sur la Sarthe.
Justement, on va revenir à ce livre « Sous le sabot ». Déjà, de quoi il parle ?
Eh bien, figurez-vous que j'ai été en charge de vider une ferme. J'étais la seule héritière d'une ferme complètement isolée dans la Sarthe profonde. Et je raconte un petit peu comment j'ai vidé cette ferme parce qu'en fait, habitait là un vieux cousin qui vivait exactement comme au 19e siècle, comme s'il n'avait pas passé les années 50. Alors, donc, c'était très, très bizarre. Et j'ai découvert un siècle de sa génération à lui, donc après ses parents et puis mes arrière-grands-parents, qui avaient tous vécu dans cette ferme et qui avaient entassé en quelque sorte les couches de mémoire. Et donc, moi, j'ai fouillé cette ferme avec un immense, immense plaisir, et jusqu'à trouver une correspondance qui était celle de ma grand-mère dans les années 24. Voilà, 1924, bien sûr. Donc, il y a un siècle. Alors, ça m'a passionnée parce que cette grand-mère, elle a 19 ans à ce moment-là. Elle est très, très joyeuse et elle donne des nouvelles à son frère qui est parti au service militaire. Elle lui donne des nouvelles de la ferme. Et j'ai trouvé que ça dressait un tableau d'un petit village, d'une petite ferme du monde, en fait. Un tableau extraordinaire d'avoir un témoignage vivant en quelque sorte. Et donc, je publie intégralement un an et demi de lettres. Enfin, que je commente abondamment. Mais les livres, vraiment, comment dire, en archéologie, in situ, quoi. C'est exactement les mots. Je les ai juste transcrits à la machine et voilà, et c'est tout, puisqu'ils étaient écrits à la main, bien évidemment.
Et concrètement, pourquoi avoir mis en avant ces lettres de votre grand-mère ?
Bien, exactement, parce que c'est à cause de l'état des lieux que s'adresse de la paysannerie française il y a un siècle, exactement. Parce qu'aussi, elle va en partir quelques années plus tard, 4 ans plus tard, elle part aux colonies, au Maroc exactement. Et ça m'a intéressé de savoir d'où venaient les colons marocains, en fait, comment s'est passé le colonialisme et d'où on est parti, de quelle ferme, de quel refus, de quelle pauvreté, de quel travail éreintant du paysan dans ces années-là. Et puis, on ne peut pas se partager la ferme. Donc, il y a la fille qui part et le garçon qui reste. Enfin, des tas de phénomènes familiaux qui, en fait, sont généralisables. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est un tout petit point du monde, mais qui parle à d'autres, bien sûr. C'est pas ma famille, ça m'a intéressé, bien sûr, mais c'est le fait qu'elle soit symbolique ou représentative plutôt d'un ensemble de gens qui ont vécu comme ça isolés ou qui sont partis, ou voilà, les années 20, quoi. ça m'intéresse, dans les campagnes.
Vous n'aviez pas idée de l'histoire de cette grand-mère ?
Alors, elle a très très peu parlé. Elle a très peu parlé de ça parce que comme elle part, quand elle a 24 ans, elle part définitivement. Alors, elle revient un petit peu, bien sûr, voir ses parents ou son frère, mais elle en a très peu parlé parce que sa vraie vie d'adulte, elle a élevé ma mère, sa fille, s'est passée au Maroc. Donc, elle n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, elle est devenue quelqu'un qui n'était pas très agréable, que je jugeais du haut de mon époque 68arde, comme raciste, colonialiste, etc. Je n'avais pas beaucoup d'estime pour elle, donc on n'a pas tellement échangé. Alors que quand j'ai retrouvé ses lettres, elle était d'une gaieté, d'une vivacité et d'une liberté extraordinaire pour les années 20. Et donc, maintenant, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Voilà, donc, le paradoxe de la vie.
Oui, donc on aura compris, hein, à travers, bien sûr, ces lettres, vous avez redécouvert ou découvert, hein, votre grand-mère.
Oui, tout à fait. Et les tâches de la ferme, elle ne s'en plaint jamais, jamais, mais on voit qu'elles sont absolument énormes. Parce que sa mère est alitée parce qu'elle est souvent malade, son père commande, et il y a une ouvrière agricole et un ouvrier agricole, et c'est tout. Et ma grand-mère, à 19 ans, fait tout, quoi. Tout. Elle fait la nourriture pour les ouvriers, elle s'occupe des cochons, elle s'occupe du cheval, elle s'occupe de tout, de tout, de tout. Les lessives, bon. Et donc ça me permet de reconstituer la vie qu'elle a eue. Bon, d'autres sociologues, évidemment, ethnologues l'ont fait, comme Pierre-Jacques Elias, évidemment, pour la Bretagne, mais moi ça m'a intéressé de te faire un témoignage vivant, quoi.
Et comment vous avez découvert ces lettres ? Étaient-elles cachées dans cette maison ?
Alors, elles n'étaient pas cachées, mais elles étaient vraiment dans la dernière armoire de la dernière pièce et au fond, dans un petit carton. Et elles étaient bien rangées et toutes petites parce que c'était des petites lettres qu'on faisait au format carré. À l'époque, l'enveloppe, c'était des petites enveloppes bleues carrées et les lettres étaient bien rangées, quasiment par ordre chronologique. Vraiment, c'était formidable. Alors après, moi, j'en ai inversé quelques-unes pour les remettre dans un bon ordre pour certaines, mais sinon, elles étaient rangées comme un espèce de souvenir que son frère a reçu ces lettres et les a toujours gardées. Donc voilà, ça m'a touchée aussi parce que ce frère et cette sœur ont été fâchés pendant au moins 40 ans. Et donc, qu'il ait gardé les lettres de sa sœur, c'est très touchant, quoi.
Blackbird, blackbird, singing the blues all day, right outside of my door. Blackbird, blackbird, better be on your way, where there's sunshine to score. Although the winter you just hang around, now you should be going homeward bound. Blackbird, blackbird, better be on your way, where there's sunshine galore. Gonna pack up all my carols, here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Gonna pack my mouth light, light. I'll arrive late night. Blackbird, bye, bye. Pack all my cares, won't. Here I go, sing along. Bye, bye, blackbird. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard love stories are all behind me. Pack my bags, light, light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye, bye. No one here can love and understand me. Oh, what
Alors, dès que vous avez vu ces lettres, est-ce que vous vous êtes dit que vous pouviez en faire quelque chose ?
Non. Je les ai gardées très précieusement. Et puis, c'est en les lisant. Enfin, moi, la paysannerie, c'est quelque chose, sans doute à cause de ces origines-là, bien sûr, qui m'intéresse depuis toujours. Je suis partie en Roumanie pour voir comment vivaient les paysans à notre époque, etc. Parce que, justement, ça ressemble tout à fait aux années 50. Mais à la façon dont ils ont vécu, avant la grande mécanisation, on va dire. Et en fait, j'ai pas su. C'est en les lisant, en découvrant cette gaieté et en voyant que finalement, ça dresse le tableau dont je parle, que j'ai pensé, tiens, je vais les retranscrire pour ma famille. Et puis après, petit à petit, j'ai voulu décrire aussi mon expérience d'avoir visité cette ferme. Et tout s'est mêlé dans un livre que j'ai finalement construit et qui a été pris par merveilleux éditeur Éric Jamais. Voilà, Dumont.
Alors pourquoi ce livre, justement, l'avoir appelé « Sous le sabot » ?
Eh bien parce que j'ai trouvé dans le grenier, dans une couche de paille qui faisait au moins 15 cm, une couche de tout, je dirais, avec des tas de choses, aussi bien des queues d'oignons que du maïs, des choses un petit peu comme une déchetterie, en fait, ce grenier. Eh bien j'ai trouvé au moins 60 sabots, du plus gros, du sabot de mariage peut-être porté une fois ou deux, voilà, sculpté, au tout petit qu'avait eu donc ma grand-mère, forcément, et donc avec un très gros sabot, des petits, et je les ai à un moment donné mis dehors, je les ai alignés, et j'ai compté que ça faisait au moins 60, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire d'avoir trouvé trois générations de sabots intacts, enfin un peu usés évidemment, mais intacts, c'est-à-dire le bois n'est pas vermoulu ni rien du tout. Je les ai d'ailleurs, j'en ai emmené une partie à Aix-en-Provence et moi.
Alors quel travail vous avez fait avec ces lettres pour qu'ils puissent devenir un livre ?
Eh bien, c'était au moment du Covid, donc j'ai commandé à peu près tous les livres possibles sur la paysannerie et sur les témoignages vécus dans toute la France de ces années-là, enfin qui ont traversé le siècle. Donc j'ai lu énormément, et puis après je me suis intéressée vraiment aux historiens qui avaient parlé du début de siècle pour reconstituer en quelque sorte la vie de mes grands-parents et mes arrière-grands-parents surtout. Et donc j'ai fait tout un travail de recherche historique, et ça m'a aidé pour écrire, oui.
Peut-on parler de chronique ?
Oui, un peu, je trouve, oui. Mon intention, c'est d'ailleurs, avec la mairie de Tresson, qui est ce petit village à 30 km du Mans, c'est d'organiser justement le village il y a 100 ans, et de faire appel encore à d'autres témoignages, d'autres écrits, parce que j'ai aussi des carnets, voyez, des carnets de comptes sur le bétail, sur les courses, j'ai beaucoup de cartes postales, j'ai des tas de petites choses en dehors de ces lettres, qui donnent un témoignage de ces années 25, enfin 20 à 30, on va dire. Et on va faire une grande expo avec Madame la maire, Madame Blin, pour faire Tresson il y a 100 ans. Et le point de départ, c'est ce livre, et c'est tous les documents que j'ai.
Pour ce livre, je suppose que également des recherches ont été faites.
Oui, énormément, énormément de recherches. La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est les archives du Mans, les registres de naissance et de baptême, des choses comme ça. Bon, dans ma mairie, oui, à Tresson, mais sinon j'ai d'autres petits villages. Enfin, voilà, il faut que j'explore un peu les généalogies de ce côté-là, et puis les archives peut-être des journaux du Mans, vous voyez, des choses comme ça. Ça, j'ai pas encore fait. Ça, je vais faire au printemps.
Et ce livre, bien sûr, il a été édité. Comment ça s'est passé ?
Ah, ça s'est passé que, en fait, j'ai procédé de façon très bizarre. Je suis allée à la grande librairie du Mans, où il y a un rayon local, histoire locale et région. Et donc, j'ai passé au moins 3 heures à noter les éditeurs que je pouvais trouver dans la région, parce que ça m'intéressait plus d'être édité par quelqu'un de régional que par qu'à Aix-en-Provence, par exemple, ou à Paris. Et donc, j'ai fait appel à plusieurs éditeurs. Et Éric Jamais, qui m'a d'abord accueilli très gentiment, il m'a dit, je vais vous lire. Et puis, il ne s'est rien passé pendant un an. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, ça ne l'intéresse pas. Je vais m'adresser à d'autres. Ça a commencé à dormir dans un tiroir. Et puis, un matin, il m'a appelé en me disant, ça y est, je viens de lire votre livre. Donc, un an après, il était sur son bureau. Je viens de lire votre livre, j'adore ça. Franchement, je le publie. Oh là là, j'étais dans un état de joie merveilleux. C'était merveilleux. Oui, parce que je n'ai pas cherché pendant des heures un éditeur, quoi. J'ai envoyé et puis ça s'est bien passé, quoi.
Et concrètement, justement, pourquoi lire ce livre ?
Eh bien, le premier public, c'est évidemment ma famille. Le deuxième public, c'est le village de Tresson, parce que, si vous voulez, ma grand-mère fait allusion, par exemple, à un tel qui a dansé avec un tel qui a rompu avec un tel au bal du samedi soir. Tous les samedis soirs, il y avait un bal, presque, qui s'appelle d'ailleurs les assemblées et non pas les bals. Et en fait, elle nomme des tas de gens. Et ces gens, comme ça fait 100 ans, j'ai osé les nommer. Du coup, les familles de Tresson se sont retrouvées, à savoir que tel ancêtre avait dansé le foxtrot, sans doute, avec tel l'autre, etc. Enfin, ça a fait bouger un petit peu le village qui était très intéressé. J'ai fait une petite conférence où il y a eu 40 personnes, c'était formidable. Donc ça, c'est mon deuxième public. Et puis après, je dois dire que les gens qui s'intéressent à la paysannerie déjà, et ensuite les gens qui s'intéressent à toutes ces années-là, c'est-à-dire début du siècle, comment on vit en France, et puis cet état aussi de la société où sans doute on doit en partir, soit par l'exode rural, soit par la colonisation. Enfin, d'où on vient quand on est un petit colon, vraiment modeste, hein, au Maroc ou en Algérie, mais enfin là, c'est le Maroc. Ça m'intéressait beaucoup, cette question.
Donc déjà, de bons retours hein, sur ce livre.
Oui. Très bon retour. Enfin, j'ai eu un article dans le Maine Libre juste avant le premier de l'an. Et puis vraiment, les gens sont très très élogieux. Je pense que c'est parce que, si vous voulez, Giacometti disait que ma petite subjectivité devienne l'objectivité de tous. Bon, ben, je n'ai pas évidemment cette prétention et je ne suis pas Giacometti. Mais si vous voulez, le fait de décrire un tout petit point du monde peut donner une vision beaucoup plus générale. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Ah ben oui, mais moi aussi j'ai connu quelqu'un qui était isolé comme ça dans sa campagne. Moi aussi, j'ai connu des familles où on ne jetait absolument rien sans être appelé aujourd'hui la maladie de Diogène. C'était culturel de ne rien jeter, par exemple. C'était culturel. Donc, de se resservir absolument de tout, jusque les bottes et les bottes de caoutchouc, quand elles sont arrivées dans les années 50, tous les paysans ont commencé à avoir des bottes de caoutchouc. Eh bien, dans cette famille, quand elles sont usées, on découpe les bottes de caoutchouc, parce que ça peut faire des joints, parce que ça peut faire des lance-pierres. Enfin, vous voyez, le caoutchouc peut servir à tout. Et tout est comme ça, les ficelles, il y avait un tiroir entier pour les ficelles, il y a un tiroir entier pour les élastiques, vous voyez. Donc, on gardait tout. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître.
Et ce livre, où peut-on l'acheter ?
Eh bien, on peut l'acheter déjà sur Amazon et sur Babelio, mais on peut le commander à Éric Jamais aux éditions du Brégo, bien sûr, et puis à la grande librairie du Mans, Doucet.
Avez-vous des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous, votre travail et notamment en ce livre ?
Oui, alors je peux donner mon téléphone, 06 60 91 82 67. Je peux donner mon mail. Je m'appelle Frédéric Banzé, donc ça fait Fred Banz, F-R-E-D-B-A-N-Z, @aol.com. Et puis sur Facebook, j'y suis. On peut me demander comme ami. Je m'appelle donc Frédéric Banzé sur Facebook. Et puis on peut écrire soit à l'éditeur, soit à la mairie de Tresson, justement, si on a des documents entre des années 20 sur la paysannerie et qu'on pourrait exposer peut-être à Tresson dans ce village, même si ça ne parle pas vraiment du village. Voilà, ça pourrait être intéressant.
Quels sont vos projets ?
Alors, mes projets, bien écoutez, là, c'est un peu compliqué. Je suis en train de refaire le tome 4 de mon roman historique pour la jeunesse. Et puis après, je m'attaquerai peut-être à cette même ferme que j'ai vidée. Il a fait, en fait, la guerre d'Algérie, cet homme qui est mort et dont j'ai vidé la ferme. Il a fait un séjour d'un an et demi, je crois, en pleine guerre d'Algérie, comme service militaire, si vous voulez. Et je pense que peut-être je vais travailler sur ses archives parce qu'il écrivait beaucoup à ses parents. Donc là, j'ai pas encore ouvert ces archives-là. J'ai un carton entier. Voilà. Et puis, le projet, c'est l'exposition de Tresson cet été. Hein. Là, le premier projet, c'est ça.
Un mot à rajouter ?
Merci beaucoup de m'avoir interviewée. Je suis très contente. Très, très contente.
Alors Frédéric Banzé, je vous remercie. Et j'espère que ce livre, Sous le sabot, plaira au public. Et je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. In the way you look, Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just